Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Alors nous continuons à parler de la semaine du cerveau qui se conclut, ça sera une des dernières interventions, je crois même quasiment la dernière, autour d'une pièce, nos premiers pas. Et nous sommes au téléphone avec le docteur Cochen de Cock, neurologue, qui interviendra après cette pièce. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc neurologue, vous êtes spécialiste de la maladie de Parkinson, enfin en tout cas, si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes spécialiste, vous allez préciser, mais
oui,
en
oui,
tout cas, vous
dire.
Y intéressez beaucoup et vous travaillez autour des pathologies du sommeil. Alors, cette pièce, Nos premiers pas, bon, j'imagine que vous l'avez vue et revue, parle donc d'un diagnostic précoce de maladie de Parkinson. Alors, maladie de Parkinson, on l'associe souvent à, voilà, on pense tremblements, hein, les tremblements caractéristiques de cette maladie, mais il n'y a pas que ça. Alors, quelle définition vous pouvez donner d'une maladie de Parkinson ?
Ben, la maladie de Parkinson, on l'a définie par des signes cliniques, et c'est vrai que le tremblement en fait partie, mais le tremblement n'est pas systématique, donc on peut avoir des maladies de Parkinson sans tremblement. Et les autres signes qui sont caractéristiques de la maladie sont la raideur et la lenteur. C'est-à-dire que progressivement, les personnes ont des difficultés à faire certains gestes qui deviennent plus lents, plus difficile à réaliser, et ce phénomène est souvent associé à de la raideur, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une espèce de raideur qui perturbe le mouvement, parfois raideur qui est un peu douloureuse même pour certains.
Alors, c'est une maladie qui a été décrite il y a longtemps, hein, je regardais, c'est au début du 19e siècle, le docteur Parkinson va donner une première description, une première nosographie de cette maladie.
Absolument, dans sa forme tremblante.
Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la compréhension de cette maladie, de sa pathogenèse, si je puis dire, pour utiliser un terme technique, comment elle apparaît, d'où ça vient ?
Alors elle est liée à une perte progressive des neurones qui fabriquent la dopamine. Donc vous savez que tout au long de notre vie, on perd des neurones. Mais chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson, il y a une perte accélérée de ces neurones-là, comme s'ils étaient plus fragiles et s'ils avaient donc tendance à mourir plus vite avec le temps. Ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs années, cette perte accélérée est déjà enclenchée, mais les neurones qui restent, ceux qui persistent, qui ne sont pas encore malades ou pas encore détruits, compensent en travaillant beaucoup plus. Et donc pendant des années, la maladie passe inaperçue, elle se développe à bas bruit, puisque les symptômes sont cachés par ce travail de compensation des neurones qui restent. Et puis un jour, à l'occasion d'un stress ou d'une grande fatigue, les symptômes vont commencer à apparaître. Et du fait de cette perte progressive, de cette compensation, au début, les signes sont un peu variables, fugaces, ils apparaissent, ils disparaissent, et puis petit à petit, ils deviennent de plus en plus permanents et de plus en plus francs. Et c'est en général à ce moment-là qu'on pose le diagnostic. Mais souvent, la maladie existe depuis plusieurs années.
Oui, oui. Donc, dans ce que vous dites, en plus, quand elle commence à se manifester, il y a quelque chose d'atypique dans la symptomatologie qui fait que c'est peut-être compliqué d'être sûr que c'est bien ça et de pouvoir l'annoncer à un patient.
C'est ça. En fait, il faut que vraiment, il faut au moins que deux des trois symptômes soient présents, la raideur, la lenteur et le tremblement, pour pouvoir poser le diagnostic cliniquement. Mais c'est vrai qu'au début, si les signes sont très discrets ou très variables, c'est parfois difficile de confirmer juste sur la clinique. Et dans ce cas, on a un examen qui nous permet de faire le diagnostic plus précis, qui est le DAT scan, qui est un examen d'imagerie qui permet de mesurer la quantité de neurones dopaminergiques dans le cerveau. Donc de savoir où en est le patient finalement au niveau de sa perte des neurones dopaminergiques, et donc de confirmer le diagnostic quand on a un doute. Voilà. Quand les signes sont clairs, on ne fait même pas cet examen parce que la maladie s'exprime toute seule. Mais quand on a un doute, et souvent dans les formes précoces, parce qu'on est toujours étonné quand on trouve un Parkinson précoce, cet examen complémentaire va nous permettre de confirmer le diagnostic.
Oui, parce que on pense que c'est une maladie de la vieillesse, hein, essentiellement, mais pas que. Quels sont les âges où la prévalence est la plus importante?
Alors, en général, elle apparaît entre 60 et 65 ans. Et on considère qu'une forme de maladie de Parkinson est précoce quand elle survient avant 50 ans.
D'accord. D'accord. Alors, l'annonce de ce diagnostic aux personnes, j'imagine, bon, il y a être sûr du diagnostic et il y a des précautions, j'imagine, à prendre pour annoncer le diagnostic, parce que peut-être la personne n'est pas prête à l'entendre et ça peut avoir, en général c'est le cas, le diagnostic peut avoir des effets négatifs sur le patient.
Ben, c'est jamais facile d'annoncer une mauvaise nouvelle.
Ça, c'est sûr.
J'essaie toujours, quand j'annonce un diagnostic comme celui-là, de donner des perspectives positives, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'on peut faire pour améliorer la situation, et puis qu'est-ce qu'on peut espérer de la recherche dans les années à venir pour que on se retrouve pas face à un mur, quoi, un diagnostic d'une maladie qui paraît grave, et qu'on puisse avoir quand même des perspectives que d'abord elle n'est pas forcément si grave, pas forcément toujours grave, pas forcément grave dès le début, et donc on a du temps, et puis ensuite que ce temps va peut-être permettre qu'il y ait d'autres possibilités pour la soigner, et puis l'expérience qui montre qu'effectivement avec le temps les thérapeutiques ont changé en quelques années et vont continuer à changer.
Alors, est-ce que c'est fait partie de ces maladies qu'on ne sait pas vraiment soigner au sens de guérir, j'ai envie de dire, mais par contre, on peut aujourd'hui prendre soin et soulager les patients, voire retarder le processus de la maladie. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure? Je pense à Alzheimer, on est un peu dans ce cas de figure aujourd'hui.
Oui, alors ça fait des années qu'on cherche des traitements pour stopper l'évolution de la maladie. Donc quand on la découvre, 60 à 70% des neurones sont déjà morts, des neurones dopaminergiques. Donc on arrive un peu après la bataille. Donc il faut on aimerait arriver à stopper l'évolution de la maladie à ce moment-là. Et pour l'instant, malgré de nombreuses tentatives de molécules, de médicaments pour bloquer l'évolution de la maladie, ça ne marche pas. Par contre, il y a quelque chose qui marche aujourd'hui et qui est finalement très facile d'accès, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que toutes les études qui sont menées pour évaluer l'effet de l'activité physique sur la perte des neurones à dopamine, eh ben montrent que l'activité permet de stabiliser l'évolution de la maladie. Donc ça permet de ralentir l'évolution de la maladie, que ce soit en intracérébral ou au niveau des symptômes, bien sûr, puisque si la mort des neurones est ralentie, les symptômes se ralentissent, et puis probablement que le fait de faire de l'activité entretient le mouvement, et comme on est dans une maladie du mouvement, eh bien l'activer ne peut avoir qu'un effet bénéfique. Et là, en pratique, hein, c'est-à-dire que vraiment, on voit que les personnes qui se mettent à une activité physique très régulière et assez intense dès le début de leur maladie vont avoir une évolution de bien meilleure qualité que d'autres personnes plus sédentaires. Donc il y a vraiment un effet neuroprotecteur de l'activité physique sur les neurones qui ralentit l'évolution de la maladie. Alors comme vous le disiez, on guérit pas, on stabilise, enfin en tout cas on stabilise, oui, on ralentit avec l'activité physique. Et puis sinon, on a surtout des médicaments qui permettent de cacher les symptômes. C'est ce qu'on appelle les médicaments symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils vont faire disparaître un symptôme sans guérir la maladie. Et donc là, le principe est simple, c'est-à-dire qu'on va essayer de compenser cette perte de dopamine en donnant soit de la dopamine, soit des médicaments qui vont se fixer sur les récepteurs de la dopamine, soit des médicaments qui ralentissent la dégradation de la dopamine et donc permettent qu'elle reste un peu plus longtemps dans le cerveau.
Oui, ce qu'on appelle des médicaments dopaminergiques, si je ne me trompe.
Exactement.
Voilà. Alors, la dopamine, on s'en sert dans ça utilisé, enfin, c'est un produit important, on s'en sert dans d'autres pathologies. Donc, est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui sont, je pense, dépression ou des pathologies de ce type, qui sont fréquemment associées à Parkinson ou pas?
Alors, la maladie de Parkinson se définit par les signes moteurs que je vous ai décrits tout à l'heure, mais s'associe à des signes non moteurs, c'est-à-dire d'autres dysfonctions cérébrales, et en particulier la dépression, qui est souvent un signe annonciateur de la maladie ou un signe qui va être associé à la maladie. Mais il y a d'autres signes comme l'anxiété, comme les troubles du sommeil, comme parfois les troubles cognitifs aussi, qui vont apparaître au cours de l'évolution de la maladie.
Oui, ce qui va compliquer considérablement le diagnostic, j'imagine.
Alors, pas tant le diagnostic, plutôt la prise en charge.
Et les méthodes, quelle est la méthode de prise en charge la plus recommandable? Alors, vous dites, voilà, quand on la découvre, en général, c'est déjà très avancé. Est-ce qu'on progresse en diagnostic précoce, en dépistage précoce de cette maladie? Est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires ou je ne sais quoi qui amènent à pouvoir prévoir le risque, en tout cas mesurer un risque de manifestation de la maladie?
On a des signes qui précèdent la maladie de Parkinson motrice qui vont nous permettre d'avoir des populations à des stades très précoces, comme par exemple certains troubles du sommeil, et en particulier le trouble du comportement en sommeil paradoxal, qui est quelque chose de très particulier, puisque ce sont les personnes qui ont ce trouble vont être capables de mimer les rêves qu'elles sont en train de faire. Donc ce sont des personnes qui, quand elles rêvent la nuit, au lieu d'être calmes comme tout le monde, vont faire les gestes qu'elles sont en train de rêver. Donc quelqu'un qui joue au foot va donner des coups de pied, quelqu'un qui rêve qu'il est pourchassé va sauter du lit parce qu'il se croit pourchassé, etc., etc. Et donc ces comportements qui paraissent parfois rigolos aux conjoints parce que voilà, oh, j'ai vu que tu rêvais cette nuit, parfois moins rigolos parce que c'est souvent violent et donc parfois le patient, la personne va donner des coups de pied, des coups de poing parce que dans son rêve il y a une défense ou une violence. Et bien ces signes vont annoncer le développement dans les années à venir d'une future maladie de Parkinson. Et ce phénomène est très intéressant parce qu'il nous permet, il pourrait nous permettre de traiter des personnes avant même qu'elles aient les signes moteurs de la maladie, si on avait un médicament qui permette de ralentir l'évolution de la maladie. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on leur conseille à ces personnes, c'est de faire du sport, parce que ça, on sait que ça peut ralentir l'évolution de la maladie, mais on aimerait vraiment avoir un médicament ou un vaccin ou que sais-je qui bloque la maladie avant qu'elle arrive.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous évoquez beaucoup l'activité physique. J'avais lu un de vos articles où vous évoquiez la question du rythme, notamment, qui était extrêmement importante. Alors, je me disais... Quel est le rôle des accompagnants? Parce que dans beaucoup de ces maladies, que ce soit Alzheimer, Charcot, des choses comme ça, les accompagnants ont un rôle souvent négligé, mais pour autant extrêmement important. Est-ce qu'on a la même situation avec Parkinson?
Oh oui, les aidants sont des éléments clés dans la prise en charge d'une maladie de Parkinson. Après, évidemment, ça dépend du type de maladie, de l'âge, de plein de facteurs différents. Mais c'est sûr que les aidants vont contribuer de façon très importante à la qualité de vie des personnes.
Donc, est-ce qu'il y a des formations pour ces aidants? Est-ce qu'il y a un accompagnement des aidants?
Alors, on a la chance d'avoir une association France Parkinson qui est très active et qui a bien conscience de du rôle des aidants, de la charge des aidants, et qui a mis en place toutes sortes d'activités, de rencontres déjà pour les aidants entre eux, pour qu'ils puissent échanger, partager les difficultés qu'ils ont au quotidien, et puis des séances aussi avec des psychologues qui permettent parfois d'exprimer les difficultés qu'on a à la maison avec une personne qui peut être malade et parfois gravement malade.
Bien, ben merci beaucoup, Dr Cochen de Coq, pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos auditeurs qui sont intéressés qu'ils pourront échanger avec vous à l'issue de la pièce « Nos premiers pas hein, ». C'est le jeudi 26 mars à 19h au Théâtre Gérard Philippe, maison pour tous Joseph Ricaume. Et puis, il y aura peut-être aussi Caroline Sussa, qui est la personne qui a témoigné, qui a écrit la pièce, et puis la comédienne, peut-être elles y seront aussi. Voilà, et puis c'est une pièce hein, qui parle un diagnostic de précoce posé pour une maladie de Parkinson. Et c'est un témoignage direct, ça s'était présenté à Avignon, et beaucoup de gens ont dit leur émotion en ayant vu la pièce. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions techniques sur la maladie. Et puis,
je vous
souhaite une bonne intervention pour ce 26 mars.
Merci beaucoup, à bientôt.